Aujourd'hui, pour la prédication, on va reprendre le parcours de prédication qu'on avait entamé en mars, je crois, sur le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Alors, on a fait une petite pause là pendant deux dimanches avec l'Ascension et la Pentecôte. Je pense qu'il y a besoin d'un petit rappel, du coup, quand même, de ce qu'on avait vu avant. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus s'adresse à ses disciples pour leur expliquer justement qu'est-ce que cela veut dire être disciple du Seigneur. C'était le but des béatitudes, le tout début de Matthieu chapitre 5. On y voit qu'un disciple du Christ, c'est une personne qui se reconnaît avant tout spirituellement pauvre et donc qui se repent, qui pleure à cause de ses fautes, qui demande pardon avec humilité. Un disciple du Christ, c'est une personne qui désire retrouver la justice de Dieu pour lui-même, mais aussi pour les autres, qui veut répandre l'amour, la bonté et la bonne nouvelle du Seigneur. C'est une personne qui veut garder son cœur pur, qui veut répandre la paix de Dieu dans ce monde, même s'il sait qu'il devra très certainement souffrir à cause de ça. En gros, un disciple du Christ, c'est ce qu'on avait vu, eh bien, c'est une personne qui cherche à ressembler toujours plus à Christ lui-même. C'est comme ça que les disciples de Jésus sont appelés à être comme des lumières dans ce monde, des lumières qui ressemblent à celui qui est la vraie seule lumière du monde, le Seigneur. Ça, c'était le début du sermon sur la montagne. Et ensuite, dans tous les textes suivants qu'on avait vus ensemble, eh bien, Jésus explique concrètement ce que ça implique dans la vie de ceux et celles qui sont ses disciples. Il expliquait que ce que cela implique dans notre rapport à la parole de Dieu, dans nos relations, notamment avec la pratique du pardon, aussi ce que ça implique dans notre rapport personnel à Dieu, avec les sujets de la prière, de l'offrande notamment. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir qu'en fait, ce que Jésus demande depuis déjà deux chapitres, ce ne sont en fait pas des actes, mais c'est un cœur transformé, un cœur réorienté. Et on va lire donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance les petites plantes des champs, la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, non, Jésus n'est pas devenu hippie. Il n'a rien pris d'illicite et ses disciples ne sont pas en train de planer. Mais c'est vrai que ça peut ressembler à certains discours qu'on entend un peu moins de nos jours, mais qu'on a beaucoup entendu dans les années peut-être 70, 60, même 80 encore. Ce texte semble nous appeler à l'insouciance, voire à la paresse. à profiter simplement de la vie, de ce qu'elle a à nous offrir. Bien entendu, ce n'est pas ça du tout. Pour bien comprendre ce texte, il faut nous souvenir de ce que Jésus disait avant, juste avant ce texte. Mais ça, c'était la prédication d'il y a 3 semaines. Donc là aussi, je pense qu'un petit rappel peut-être sera nécessaire. Dans les versets précédents, Jésus demandait à ses disciples de ne pas chercher à amasser des trésors sur terre, mais plutôt dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que les disciples doivent choisir leur maître. C'est ce que Jésus leur disait. Ils doivent choisir le maître qu'ils veulent suivre, le maître auquel ils veulent ressembler. Soit ils choisissent le Christ, soit ils choisissent ce monde, ou bien l'argent notamment qu'ils prenaient pour exemple. Jésus poussait en fait ses disciples à se positionner, à reconnaître ce qui représente le vrai trésor de leur vie. Et il leur affirme au verset 21 que « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ce à quoi nous accordons de l'importance nous montre l'orientation de notre cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'orientation du cœur ? Eh bien, il faut savoir que dans la Bible, le mot « cœur » peut avoir 3 sens différents. La Bible parle parfois du cœur comme d'un organe du corps, hein, l'organe qui pompe le sang, un organe physiologique. Je pense qu'on sera vite d'accord pour dire qu'ici, ce n'est pas de ça qu'on parle. Parfois, la Bible parle aussi du cœur comme d'un centre émotionnel, le centre, le cœur des émotions. C'est surtout comme ça, je pense, qu'on comprend le mot « cœur » de nos jours actuellement, hein. Donc, on parle beaucoup d'émotions quand on parle du cœur. Je pense qu'on calque peut-être rapidement cette compréhension sur ce texte, alors qu'ici, on ne parle pas d'émotions, on parle de choisir, on parle de se positionner. Donc, ce n'est pas ça non plus dans ce texte. Le 3e sens du mot « cœur » dans la Bible, et c'est en fait celui qui revient le plus fréquemment, il faut le savoir, c'est le cœur comme centre de nos motivations, de notre volonté et de nos désirs. Dans la Bible, le cœur, c'est l'origine, la source de tout ce que je dis, de toutes mes paroles, mais aussi de tout ce que je fais, de tous mes actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Par exemple, en Luc chapitre 6, verset 45, Jésus dit que l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Hein ? Mon cœur, dans la Bible, c'est en fait l'origine de tout ce qui est ma vie. Ce qui remplit mon cœur, ça détermine mes paroles, ça détermine mes actes. Mon cœur, c'est le centre de mes motivations, de mes désirs, donc de ma vie entière. Et il y a ce passage de Proverbe 4, verset 23, qui résume parfaitement cela. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Quand Jésus demande à ses disciples « Qui est le maître que vous voulez suivre ? Où se situe le trésor de votre cœur ?» il est en fait en train de leur demander « Quelle est la plus grande motivation de votre vie ?» Si les disciples répondent qu'ils veulent servir l'argent, c'est que leur motivation, le désir de leur cœur, c'est de posséder toujours plus. C'est ça leur motivation première. Mais si les disciples répondent qu'ils veulent servir Dieu, alors c'est que leur motivation, le plus grand désir de leur cœur, c'est de suivre le Christ, de chercher à lui ressembler, de le rendre visible dans ce monde. Si on revient au texte d'aujourd'hui, Jésus parle de 2 choses qui peuvent devenir des motivations très très fortes dans notre vie, parce que ce sont des choses essentielles, ce sont des besoins premiers. Il parle de manger et il parle de se vêtir. Ces choses sont très importantes, il faut y penser, il faut les prévoir, il faut les rechercher, ça c'est très légitime. Mais Jésus sait que ce côté légitime peut être un piège pour nous. Parce que la nourriture et les vêtements, ça s'obtient comment la plupart du temps ? Avec de l'argent. Et c'est là que peut se trouver le piège. Mes préoccupations légitimes pour mes besoins essentiels peuvent venir masquer une motivation plus profonde et plus mauvaise. Mon désir de posséder, tout simplement. Je peux me dire, bon, la nourriture, le vêtement, ça, c'est pas mauvais, c'est essentiel. Donc, lorsque je les recherche, je ne fais rien de mal. Je m'occupe de mes besoins premiers, c'est tout. Je peux me dire ça, et pourtant, ça peut devenir une excuse pour masquer ma soif de posséder. Je vais vouloir manger, oui. Mais peut-être manger des cerises en automne, même si je sais qu'elles sont produites très loin de mon pays et donc le transport est assez polluant peut-être. J'aurais autre chose à manger, mais non, c'est ça que je veux, que je désire à ce moment-là. Je vais vouloir manger de la viande tous les jours ou presque, alors qu'on sait que l'élevage intensif, c'est une catastrophe écologique. Sans compter que produire autant, forcément, eh bien, les conditions d'élevage des animaux se détériorent avec ça. Je vais vouloir manger du poisson 5 fois par semaine, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Et tant pis si ça participe à appauvrir les océans, et donc à appauvrir la création dont Dieu nous a fait les intendants. Je veux tout, en grande quantité, même si pour cela il faut utiliser toujours plus de pesticides, d'engrais. Pas parce que je veux manger, mais parce que je veux posséder. La préoccupation pour la nourriture, elle est bonne, elle est légitime, mais est-ce que parfois, soyons honnêtes, est-ce que parfois nous ne profitons pas de ce côté légitime pour masquer une mauvaise motivation de notre cœur, le désir premier de posséder? Et dans ce cas, eh bien, la possession devient notre maître. Nous manifestons alors que posséder est pour nous une motivation supérieure à celle de ressembler à Christ. Pour le vêtement, eh bien, on pourrait dire la même chose. Se vêtir est un besoin essentiel, et je ne pense pas non plus qu'il faille rechercher la simplicité jusqu'à s'habiller comme des sacs. Il y a des nécessités sociales, des nécessités relationnelles, ou même parfois professionnelles, de bien s'habiller. Et on ne va pas rentrer dans le débat des chemises pour les pasteurs. Mais soyons honnêtes, là aussi, soyons honnêtes. Combien parmi nous ont des armoires qui débordent de vêtements? Nous en avons tellement que je suis persuadé que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à les mettre toutes une fois dans l'année. Je parle pour moi également. Sans compter que, nous le savons, la fabrication de masse, mais à faible coût, parce qu'on n'est pas prêt à payer le coût de tout ça non plus, eh bien ça nourrit les inégalités partout dans le monde, les injustices, l'exploitation des plus faibles, nous le savons. Cette préoccupation pour le vêtement est bonne, elle est légitime. Mais est-ce que parfois nous ne profitons pas de ce côté légitime pour masquer une mauvaise motivation de notre cœur? Le désir de posséder. Et dans ce cas, je le répète, mais nous faisons de la possession notre maître. Nous manifestons que posséder est pour nous une motivation supérieure à celle de ressembler à Christ. Ça n'a pas été simple pour moi de rédiger ces phrases parce qu'elles impactent pour moi-même également. Mais dans ces textes, Jésus est en train de questionner non pas nos actes, qui peuvent avoir des apparences de légitimité. Mais il questionne avant tout notre cœur. La motivation, le désir profond qui nous anime et qui vient diriger nos choix, nos actes, nos paroles, ce que nous recherchons avant tout dans notre vie. Alors Jésus vient donner à ses disciples une autre voie, une voie meilleure, une motivation, une orientation du cœur qui soit meilleure. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu nous encourage ici à faire de lui la motivation la plus profonde de notre cœur. Il faut nous nourrir, il faut nourrir notre cœur de Dieu, nourrir notre cœur de sa parole, de notre relation à lui, parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons mettre Dieu réellement à la première place. Nous pouvons chercher à lui ressembler avant toute autre chose. Et ça ne nous fera pas oublier le reste. On ne deviendra pas paresseux, oisif. Au contraire, en nourrissant notre cœur de Dieu, cette motivation si puissante viendra ensuite orienter toutes nos motivations secondaires, toutes nos paroles, tous nos choix, tous nos désirs, tous nos actes. Même dans mes démarches de travail, même pour obtenir de l'argent, eh bien je chercherai à agir non pas pour posséder, mais pour mettre en œuvre les forces qui me viennent de Dieu. Car comme me le rappelle le Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » En remplissant mon cœur de Dieu, il ne me donnera pas une motivation faible, paresseuse, timide, mais il me donnera la force de travailler selon sa volonté, à la prospérité qu'il a préparée pour moi, et pas que je désire pour moi-même. Ne pas s'inquiéter du lendemain, comme le recommande Jésus, ce n'est pas un appel à ne pas penser au lendemain, mais c'est un appel à ne pas faire du lendemain la motivation de mon cœur. Mais que ma motivation première soit le règne de Dieu en moi et dans ce monde. Alors le Saint-Esprit de Dieu orientera aussi ma volonté dans tous les autres domaines selon ce qui est juste aux yeux de Dieu et de lui seul. C'est ainsi que la bonne motivation de Dieu dans toutes ces choses me sera donnée en plus. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, au ciel, dans ma vie entière, dans notre église, dans notre ville d'Angoulême. Et notre Dieu, par ton esprit, viens faire de cette préoccupation la première motivation de notre cœur et de notre vie. Toutes ces choses, le vêtement, la nourriture, votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous la force de parvenir à la prospérité sans pour autant faire de la possession la motivation de notre cœur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Alors Seigneur, protège-moi de cette tentation. Protège-moi de faire de la possession la motivation de mon cœur, mais remplis-moi de ton Saint-Esprit pour me façonner toujours plus à ton image. Façonner mon cœur, façonner mes motivations pour alors changer mes choix, changer mes paroles et changer mes actes. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Seigneur, voilà mon but en tant que ton disciple. Voilà notre but en tant que ton Église. Te rendre la gloire qui est la tienne et manifester ta présence dans ce monde. Je viens de paraphraser la prière que le Seigneur nous a laissée, le Notre Père, pour montrer sa pertinence aussi avec ce texte. Et j'aimerais simplement vous inviter à chanter cette prière pour répondre à ce message de l'Évangile que nous avons entendu. Je vais rappeler les musiciens, le groupe de louanges, pour pouvoir chanter ensemble. Tout simplement un cantique qui reprend ces paroles du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que c'est le désir réellement le plus profond de mon cœur? Que son règne vienne en moi, dans ma vie. Et dans ce monde, je vous invite à vous lever pour ce chant.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi Bye-bye.